Chapitre 4. La folie de Valentine, en dormant. C'était une grande et belle chambre, meublée d'une façon sévère, comme doit l'être la retraite d'un savant médecin. Un bon feu brûlait dans la cheminée, dont la tablette supportait deux lampes recouvertes de leurs abat-jours. Il ne faut pas trop de lumière dans la chambre d'une malade. Valentine était couchée dans le propre lit du docteur, au fond d'une alcôve défendue par des draperies qu'on avait laissé tomber à demi. Au moment où Victoire avait annoncé l'arrivée de Madame Samaillou, tout le monde était réuni autour du foyer. J'entends tous ceux qui portaient à Mademoiselle de Villanove un intérêt si vif et si constant. Il y avait là les hôtes principaux de l'hôtel d'Ornans, Madame la Marquise, le prince qu'on appelait Monsieur de Saint-Louis, et même le colonel Bozzo, malgré l'état précaire de sa santé, sérieusement attaqué depuis quelques semaines. La belle comtesse Francesca Corona, qui ne le quittait jamais et lui servait d'Antigone, était assise auprès de lui sur la causeuse la plus rapprochée du foyer. L'autre coin du feu était occupé par le prince et la marquise. Cette dernière causait tout bas avec le docteur Samuel, assisté d'un autre personnage qui n'avait point ses entrées jadis à l'hôtel d'Ornans, mais qu'on avait admis depuis peu dans l'intimité de la famille sur sa grande réputation de jurisconsulte, certifiée à la fois par le colonel Bozzo, par Monsieur de Saint-Louis et par le docteur Samuel. Il ne faut point oublier que les amis de Valentine avaient besoin d'un conseil judiciaire compétent presque autant que d'un habile médecin. Deux menaces étaient suspendues sur la tête de cette chère jeune fille entourée d'amis si dévoués, et la plus cruelle de ces deux menaces n'était peut-être pas la maladie. Le docteur Samuel, en qui tout le monde avait confiance, avait dit en effet « Si elle perd celui qu'elle aime, elle mourra ». C'était précis comme un arrêt. Le personnage dont nous parlons n'était pas tout à fait un inconnu pour le lecteur. Il nous fut présenté jadis à l'hôtel de la rue Thérèse, chez le colonel Bozzo Corona, sous le nom du docteur en droit. Il s'appelait Monsieur Portal Girard, et c'était lui qui, après un examen approfondi de la situation de Maurice, avait prononcé en quelque sorte une sentence prophétique en déclarant que le jeune lieutenant de sa fille ne pouvait pas être acquitté. C'était lui en outre qui avait ouvert la vie d'une évasion à tenter. Cet expédient, qui est le plus extra-judiciaire de tous, n'est pas mis en avant d'ordinaire par les jurisconsultes, mais de même que les médecins trop savants deviennent fréquemment sceptiques à l'endroit de la médecine, de même les adeptes qui sont descendus tout au fond des secrets de la jurisprudence se sentent pris souvent d'un douloureux et terrible dédain pour la justice humaine. On dirait qu'en toute chose, la science est l'ennemi de la foi. Ici d'ailleurs, à vrai dire, la loi n'était pas en cause, non plus que la valeur morale de ceux qui sont chargés de l'appliquer. Monsieur Portal Girard, consulté par une famille en détresse qui lui disait « Nous voulons sauver le lieutenant Maurice et nous ne voulons que cela », ne prenait point la peine d'avoir un avis sur le fond même de la question, c'est-à-dire sur la culpabilité ou sur l'innocence de l'accusé. Il raisonnait au point de vue du problème qu'on lui avait donné à résoudre, le salut de Maurice, et il disait, avec une grande apparence de vérité, qu'il soit innocent ou coupable, la situation est la même, puisque les apparences l'écrasent. Les juges le condamneront, les juges ne peuvent pas ne point le condamner. Il n'y a personne ici qui ne le condamna s'il était juge. En conséquence, puisque votre nécessité est de le sauver, il faut agir en dehors des juges et même contre les juges. La logique de ce docteur en droit en valait bien une autre. Nous avons dit que maman Léo avait repris toute sa vaillance au moment d'affronter, pour la première fois de sa vie, l'entrée d'un salon du grand monde. Malgré l'habitude qu'elle avait, selon le dire de son enseigne, d'être accueillie avec la plus haute distinction par les principales cours d'Europe, il lui avait fallu un grand effort sur elle-même pour dompter son embarras préalable, et nous devons ajouter que son audace factice était plutôt une réaction contre l'insolence de Mademoiselle Victoire. En traversant l'antichambre, elle achevait de s'aguerrir et se représentait toutes ces vieilles et nobles têtes rangées en demi-cercle autour du lit de Valentine, immobile et raide entre ses draps, comme une princesse des salons de cire. « Je ne baisserai pas les yeux devant eux, pensait-elle, je ne leur dois rien, pas vrai, il y en a au moins deux que je connais pour les avoir vus à la baraque, j'irai tout droit à la chérie et je l'embrasserai en disant « La voilà, maman Léo, elle est là pour un coup et ceux qui voudraient te faire du chagrin trouveront désormais à qui causer. » Comme elle arrivait à la porte, M. Constant la dépassa vivement, ouvrit et dit à voix basse « Madame veuve Samaillou. » Et puis il s'effaça, et la dompteuse se trouva sur le seuil, non point en face d'un orgueilleux cénacle composé de gens assis et fixant sur elle des regards hautains, mais bien vis-à-vis d'une vieille dame en cheveux blancs à l'air doux et triste qui avait fait plusieurs pas à sa rencontre. Derrière cette bonne femme, les autres membres de la famille étaient debout, dans l'attitude qu'on garde quand on vient de se lever pour faire honneur à un nouvel arrivant. Personne n'était resté assis, pas même le colonel Bozzo, que la veuve reconnut, blême et presque tremblant, appuyé sur l'épaule de la comtesse Corona, pas même le prince, que la veuve devina du premier coup d'œil, à qui son imagination prêta tout de suite un aspect auguste. Elle ne s'attendait pas à cela, et toute son audace tomba devant la simplicité solennelle de cet accueil. « Nous vous remercions d'être venus, madame, lui dit la marquise. Quand je vous vis autrefois, nous étions tous bien joyeux, et je croyais emporter de chez vous le bonheur de ma maison. Il en a été ainsi pendant près de 2 années. La chère enfant que nous vous devons nous a donné des jours de consolation et de joie, mais à présent, le malheur a frappé à notre porte, un malheur horrible dont vous avez entendu parler sans doute, et nous n'avons plus d'espoir qu'en vous. » Tout ce que je pourrais faire, balbutia la dompteuse en essayant une maladroite révérence. Tout le monde répondit aussitôt à son salut, ce qui mit le comble au malaise qu'elle éprouvait. Constant, dit le colonel, approchez un fauteuil à madame Samaillou, car je suis obligé de m'asseoir, mes pauvres jambes sont bien faibles. Monsieur Constant, qui avait ici presque l'air d'un domestique, se hâta d'obéir, pendant que la comtesse Corona aidait son aïeul à prendre position dans sa bergère. « Nous vous attendions avec grande impatience, poursuivit la marquise. La pauvre chère enfant prononce bien souvent votre nom, et c'est le seul, avec un autre. » Elle s'arrêta, ses yeux étaient mouillés. La veuve sentit que ses paupières la brûlaient, car elle l'était profondément attendrie. Et ses soupçons, si jamais elle avait éprouvé rien qu'on puisse appeler soupçons, s'évanouissaient comme des rêves. « On dirait, acheva la marquise en essuyant ses paupières rougies par les larmes, qu'elle a oublié tout le reste, et pourtant ceux qui sont ici l'aiment bien. Allez, ma bonne madame Samaillou. » Au lieu de s'asseoir, la dompteuse demanda, en désignant du doigt l'alcôve, « Est-ce qu'elle est là ?» Ce ne fut point la marquise qui répondit. Une voix se fit entendre derrière les rideaux et appela « Léo, ma chère maman Léo !» La dompteuse bondit aussitôt vers l'alcôve où elle pénétra, et l'instant d'après, Valentine était dans ses bras. La marquise avait repris son siège en levant les yeux au ciel. Le colonel Bozzo eut une petite quinte de toux, pendant laquelle la comtesse Corona lui frappa doucement dans le dos, comme on fait aux enfants qui ont la coqueluche. Derrière les rideaux de l'alcôve, on entendait la forte voix de la dompteuse, adoucie jusqu'au murmure, et qui disait « Fleurette, ma petite Fleurette chérie, nous le sauverons, ou j'y laisserai ma peau. » Le colonel ouvrit sa bonbonnière pour y prendre une tablette de pâte regnault, et dit au docteur « Ce rhume est tenace et me fatigue. Il faudra que nous prenions une consultation sérieuse, car je ne voudrais pas m'en aller à près de 100 ans comme une petite Anglaise poitrinaire. Ah, mais non !»« Ce n'est rien, répliqua Samuel, je vous garantis vos poumons, ils sont d'acier. » Un sourire vint aux lèvres de M. Constant qui restait debout près de la porte, parce que personne ne lui avait dit de s'asseoir. « Madame Samaillou, demanda la marquise en s'adressant à lui justement, c'est-elle ce que nous attendons de son obligeance ?»« À peu près, répondit l'officier de santé, je lui ai expliqué la chose de mon mieux. » La marquise se pencha vers monsieur de Saint-Louis et ajouta tout bas, « Pour une chose aussi délicate, j'aurais préféré monsieur le baron de la Perrière, mais on ne le voit plus. Ah, « C'est vrai, dit le prince, que devient-il donc, ce cher baron ?» Monsieur Constant avait les yeux fixés sur le colonel, qui lui envoya un regard souriant. « Monsieur de la Perrière s'occupe de nous, cher bon ami, dit-il. Vous le verrez peut-être ce soir, peut-être demain, et vous regretterez d'avoir pu penser qu'il abandonnait ses amis dans le malheur. » Il fit en même temps un signe imperceptible pour les autres, mais que monsieur Constant sut traduire sans doute, car monsieur Constant disparut aussitôt. Le silence régna autour du foyer. Il est permis de penser que chacun dans le cercle désirait entendre ce qui se disait au fond de l'alcôve, mais aucun bruit de voix ne dépassait plus les rideaux. Madame Samaillou avait les lèvres appuyées sur le front de Valentine, qui murmurait à son oreille « Ce Constant, est-il encore là ?»« Non, répondit la veuve après s'être penchée pour regarder dans le salon. « Taisons-nous, fit Valentine. » Son doigt montra le fond de l'alcôve, tandis qu'elle ajoutait « Il doit être là, aux écoutes. »« Comment ? » fit la veuve. « Là, ce n'est donc pas un mur, derrière les rideaux ?»« Chère mère, dit-elle, en élevant la voix, venez. » Madame la marquise d'Ornans se leva aussitôt et traversa la chambre, leste comme une jeune fille. « Ah, il y a bien longtemps que tu ne m'avais appelée chérie, » fit-elle avec émotion. Sa voix tremblait de plaisir. Elle ajouta, en se tournant vers la veuve, dont elle serra les deux mains avec effusion, « Ah, c'est à vous que je dois cela. Du fond du cœur, je vous remercie. »« Ah, comme elle est aimée, » murmura la comtesse Corona. Le colonel lui prit la tête et la baisa au front. Pendant qu'elle était en quelque sorte aveuglée par cette caresse, les quatre hommes qui restaient seuls autour du foyer échangèrent un étrange et rapide regard. Les yeux du prince, ceux du docteur Endroit et ceux de Samuel exprimaient de l'inquiétude. Dans ceux du colonel, il y avait un froid dédain. Valentine avait attiré la marquise jusqu'à son chevet. La veuve, qui s'était retirée un peu de côté et dont les yeux s'habituaient à l'obscurité relative produite par les draperies de l'alcôve, se mit à regarder la jeune fille. C'était peut-être la fièvre, mais il y avait des couleurs aux joues de Valentine. Son regard brillait extraordinairement. Elle était si belle que la pauvre Léocadie pensait « Il n'y a qu'elle pour lui comme il n'y a que lui pour elle, et ce n'est pas possible que Dieu ait le cœur de séparer ces deux amours-là. » « Je voudrais vous demander une chose, bonne mère, » dit en ce moment Valentine à la marquise. « Tu as donc des secrets, méchante ?» fit la vieille dame d'un ton plein de caresses. « Dites-leur de s'en aller, » répliqua Valentine, avec une impatience soudaine que rien ne motivait. « Ils me gênent, je ne les aime pas, je n'aime que vous et maman Léo. » Cette dernière éprouva une espèce de choc en écoutant ces paroles qui étaient d'un enfant ou d'une folle. La marquise embrassa Valentine sans répondre et dit en passant près de la veuve « Elle est bien mieux qu'hier, et si vous l'aviez entendue dans les commencements, ah, sa raison se remet à vue d'œil. » « Allons, messieurs, reprit-elle en rentrant dans la chambre, nous sommes de trop ici, et nous n'aurions pas dû attendre qu'on nous pria de sortir. Donnez-moi votre bras, prince, et allons prendre le thé au salon. » Il n'y eut pas une seule objection. Tout le monde se leva en souriant, et le colonel, qui sortait le dernier, appuyé au bras de Francesca Corona, dit « Savez-vous que ma petite Fanchette a raison d'être jalouse? Nous l'aimons trop, cet enfant-là. » « Et je l'aime comme tout le monde, » ajouta la comtesse. « Venez, » fit la marquise, « quand elles vont avoir fini, nous reprendrons la bonne Madame Samaillou en sous-œuvre, et je suis bien sûr qu'elle fera tout ce que nous voudrons. »« Nous voilà seuls, » dit la veuve au moment où la porte se fermait. Elle allait parler encore, mais Valentine lui mit la main sur la bouche. Puis tout à coup elle rejeta sa couverture d'un mouvement violent et sauta hors du lit en riant à gorge déployée. La dompteuse, stupéfaite, voulut la saisir dans ses bras, mais Valentine s'échappa vers le foyer en disant « J'ai froid, et mon frère est mort, il faut que j'aille à son enterrement. » Elle s'accroupit près du feu et chauffa ses pieds nus. Madame Samaillou resta un instant immobile sous le coup de son angoisse. Toute idée de folie s'était en effet effacée dans son esprit au premier aspect de Valentine si calme. Maintenant, elle se souvint de ce que lui avait dit M. Constant. Valentine, en se retournant à demi, secoua les beaux cheveux qui tombaient sur ses épaules. « Viens, dit-elle avec un sourire d'enfant, viens te chauffer aussi, nous parlerons de mes noces. » Madame Samaillou avait enveloppé Valentine dans un manteau de nuit pour l'asseoir à la place même occupée naguère par le colonel. Les petits pieds de la jeune fille sortaient seuls des plis de l'étoffe et semblaient chercher la chaleur du foyer. « Ah, tu es comme les autres, disait-elle d'un ton insouciant et doux. Tu ne veux pas croire que j'avais un frère, mais moi, je me souviens bien d'une nuit terrible. Et quand je pense à cette nuit-là, c'est comme si on me racontait une histoire de brigand. » Elle baissa la voix tout à coup pour ajouter rapidement « Ils sont difficiles à tromper, prends garde. » La dompteuse ouvrit de grands yeux. Elle ne savait que croire. « Qu'est-ce que Maurice t'a dit pour moi ?» demanda tout haut Valentine. « Je n'ai pas vu Maurice, répondit Madame Samaillou. « Quoi, vraiment, tu l'aimais pourtant bien autrefois ?»« Mais ce matin encore, j'ignorais tout, reprit la veuve, et je me demande à moi-même comment cela se fait. C'est seulement ce matin qu'on a raconté devant moi cette horrible aventure. » Valentine l'interrompit pour dire d'un ton important, « Mon frère était riche et j'aurais une très belle fortune. » Leurs regards se rencontrèrent, et certes, c'était dans les yeux de la veuve qu'on aurait pu découvrir des symptômes de folie. Elle passa la main sur son front, où il y avait de la sueur. Valentine reprit. « Embrasse-moi, maman Léo, nous irons le voir ensemble. Est-ce qu'on peut se marier dans une prison ?» La dompteuse sentit qu'on glissait un papier dans sa main. En même temps, la voix de la jeune fille murmura à son oreille. Dans l'alcôve, si bas que j'eusse parlé, on m'aurait entendu. Ils sont là, derrière le rideau. « Et qui donc ? » balbutia la veuve. « Ceux qui ont tué Remy Darx, les habits noirs. » La veuve tressaillit de la tête aux pieds, mais Valentine lui jeta ses bras autour du cou en riant bruyamment. Et comme la pauvre maman Léo restait toute bouleversée, la jeune fille ajouta dans un baiser « Vous oubliez votre rôle, parlez-moi donc de l'évasion, il vous guette. » La dompteuse n'aurait pas été plus complètement étourdie si on lui eût rendu sur le crâne le coup de boulet ramé qui avait fait la fin de Jean-Paul Samaillou, son mari. Elle essaya pourtant et dit, comme au hasard, répétant à son insu les propres paroles de M. Constant, « Il n'y a pas de serrure dont on achète la clé avec de l'argent. Tout le monde est riche ici et tout le monde a bonne volonté de mettre la main à la poche. On m'a dit comme ça qu'il n'y avait que toi, fillette, pour s'opposer à la délivrance de Maurice. » Valentine se renversa en arrière et prit une attitude de profonde réflexion. « Penses-tu qu'on puisse condamner un innocent ?» murmura-t-elle. « Tu sais bien qu'il est innocent, n'est-ce pas ?»« Si je le sais, » répliqua Madame Samaillou, « quand il y aurait 100 millions de juges pour dire le contraire, je crierais encore qu'il est innocent. Mais ça n'empêcherait pas un malheur, vois-tu, fillette, parce que les juges sont les maîtres. Et on en a tant vu qui étaient blancs comme neige, portaient leur pauvre tête sur l'échafaud. » « Voyons, il faut te faire une raison. Quand Maurice sera libre, vous irez en Angleterre ou en Espagne, ou même plus loin, et vous vous marierez ensemble. »« Viendras-tu avec nous, toi, maman ?» demanda la jeune fille. « Mais certes, si vous voulez de moi. » Valentine se leva d'un mouvement plein de pétulance et fit quelques pas dans la chambre. « Je suis bien faible, dit-elle. » Et puis, s'arrêtant devant la glace qui était sur la cheminée, elle ajouta « Je suis bien pâle. » Et puis, encore avec un frisson qui secoua ses membres et mettant un cercle noir autour de ses yeux, « Ah, Maurice est peut-être plus pâle que moi. » Elle revint s'asseoir, mais au lieu de s'appuyer désormais au dossier du fauteuil, elle mit sa tête sur l'épaule de la veuve, de façon à ce que son visage fût masqué par un regard venant de l'alcôve. « Je vais dormir ainsi, dit-elle. Veux-tu ? » « Je veux bien, répondit la veuve, qui reprenait quelque sang-froid et entrait peu à peu dans son rôle. « Mais pourquoi ne pas te remettre au lit ?»« Ceci est bien, murmura Valentine tout bas. Continue. » elle ajouta tout haut, parce que je suis mieux comme cela, il me semble que tu me gardes. Tu as donc peur, chérie? Quelquefois, oui, je revois mon frère, oh, comme je l'aurais aimé, et mon père, tous deux livides, tous deux morts. J'ai sommeil, bonsoir. Dans la position qu'elle l'avait prise, sa bouche était tout contre l'oreille de Madame Samaillou. Maintenant, ne me répondez plus, dit-elle, si bas que la dompteuse avait peine à l'entendre. Si vous restez bien immobile, comme il faut pour ne point éveiller une pauvre folle qui dort, cet homme ne se doutera même pas que je vous parle à l'oreille. Avez-vous bien serré le papier que je vous ai donné? Vous le lirez quand vous serez seule. Je ne suis pas folle, vous l'avez déjà deviné, et ce ne sont pas les juges qui menacent notre Maurice le plus terriblement. J'ai vu Maurice dans sa prison. Ici, la dompteuse laissa échapper un si brusque mouvement que Valentine fit comme si elle s'éveillait en sursaut. Qu'as-tu donc ? Demanda-t-elle à voix haute. J'étais déjà embarquée dans un beau rêve, le rêve que j'ai toujours dès que je m'endors. Moi, répliqua la veuve avec à propos cette fois, c'était tout le contraire. Je m'étais endormie aussi et j'avais un mauvais rêve. Ah, si le mien pouvait seulement revenir, murmura Valentine, reposant de nouveau sa tête charmante sur l'épaule de Madame Samaillou. Vous voyez, reprit-elle tout bas, tandis que son attitude abandonnée feignait encore une fois le sommeil, vous ne m'avez pas obéi. Quoi que je dise désormais, gardez votre calme. Il est nécessaire que vous sachiez tout. Maurice m'avait écrit pour me demander du poison, mais la mort infamante lui fait peur, et j'ai été le voir pour lui donner le poison qu'il m'avait demandé. » Elle s'interrompit, ajoutant d'un ton paresseux, et de manière à être entendue par l'espion qui, selon elle, était aux écoutes, « Ah, j'ai de la peine à me rendormir, parce que tu m'as éveillé en frayeur. » « Vous le voyez, poursuivit-elle de cette voix murmurante, qui certes ne pouvait aller jusqu'à l'alcôve, j'ai toute ma présence d'esprit, et Dieu sait qu'elle n'est pas de trop pour combattre l'épouvantable danger qui nous entoure. Si j'ai pu quitter cette demeure et pénétrer dans la prison de la force où Maurice a été transféré depuis quelques jours, c'est que mes geôliers, à moi qui suis aussi prisonnière, ont favorisé mon dessein. » Je ne pourrais prouver cela, mais j'en suis sûr. Nous jouons, eux et moi, une partie étrange, une partie mortelle. Ils sont nombreux, ils sont rusés comme des démons, et moi je suis toute seule, et moi je ne suis qu'une pauvre enfant, ignorante de la vie. Mais Dieu peut-il être pour le mal contre le bien? L'espoir me reste, et je garde mon courage parce que j'ai confiance en la bonté de Dieu. » Elle se sentit pressée contre le cœur de la dompteuse qui battait à se rompre. « Oui, reprit-elle, je comprends, bonne Léo. J'ai tort de parler d'abandon puisque vous êtes là, mais c'est précisément la bonté de Dieu qui vous envoie. Et jusqu'à l'heure où nous sommes, je peux bien dire que j'étais seule. Ne m'interrogez pas, je sais ce que vous voulez me demander. Les gens qui m'entourent sont de deux sortes, et certes, Madame la marquise d'Ornans, qui pendant 2 années m'a servi de mère, a pour moi l'affection la plus dévouée. Elle n'est pas complice, elle est victime, car le fils unique qui devait perpétuer son nom est couché au fond d'une tombe. Il y a une autre personne encore qui ne sait rien de leur secret, c'est cette pauvre belle créature, Francesca Corona. Je ne sais pas quel délai on leur donnera, ni combien de jours leur seront accordés, mais croyez-moi, elles sont toutes les deux condamnées comme moi, comme Maurice, comme vous-même. » Cette fois, la veuve n'eut point de frisson. Elle ne tremblait jamais quand la menace ne s'adressait qu'à elle. À son tour, elle put sentir l'étreinte du bras frêle et gracieux qui entourait son cou. Elle sourit sans parler. « Oh, vous êtes brave, bonne Léo, » continua Valentine, « et c'est vous qui me sauverez, s'il est possible de lutter contre l'infernale puissance de ces hommes. Je vais vous dire maintenant comment je reçus la lettre de Maurice et comment il me fut possible non seulement de sortir de ma prison, mais encore de pénétrer dans la sienne. »